merci à notre Seigneur pour la fraternité qu'il met entre vous et entre nous. Nous sommes reconnaissants d'y être inclus. Donc c'est Matthieu 19 et 20. Nous avons chanté, nous le verrons tel qu'il est. J'avoue avoir eu envers toi, David B., quelques secondes de jalousie en voyant que dans les parties sur lesquelles tu as donné un message, il y avait Matthieu 17, c'est-à-dire la transfiguration. Parce que la transfiguration, là, pendant un moment, trois des disciples ont vu Jésus tel qu'il est. Peut-être pas pleinement, mais et bien évidemment que commencer mieux, on voit le Seigneur et sa splendeur et sa royauté, sa messianité aussi, mieux notre foi est fondée. C'est ce que Pierre écrit au début de sa deuxième lettre. Il dit l'Évangile, c'est nous, on ne vous a pas annoncé des mythes. Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux sur la montagne. Alors, dans Matthieu 19, je vous propose de lire par paragraphe, avec en arrière-plan ça, combien il est majestueux, combien il est le roi. Et d'ailleurs, regardons le verset 1. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, c'est une expression qui rythme dans Matthieu, hein, des parties dans le texte. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il partit de la Galilée et se rendit aux confins de la Judée, au-delà du Jourdain. De grandes foules le suivirent et là, il les guérit. On est presque habitué à lire ça dans les évangiles, mais en attendant, ici encore, la mention est très importante parce qu'elle donne le contexte dans lequel se passe l'épisode suivant. Voilà, dans ce contexte de manifestation du règne de Dieu. Donc, les versets 3 à 6 inclus, les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Et la question de ces quelques pharisiens-là, elle se situe à un certain niveau. Alors déjà, c'est pour l'éprouver. Et puis, ils ont bien sûr leur angle d'approche pour n'importe quel motif. Autrement dit, on fait ce qu'on veut. Donc, la question se situe à un certain niveau. Et Jésus répond à un autre niveau. Le Créateur, au commencement. Et puis, l'homme, que l'homme ne sépare pas ici. Et puis, Dieu, ce que Dieu a uni. Et c'est pas seul, bien entendu, ce n'est pas uniquement dans ce domaine-là, du mariage, du divorce, etc., ou plus loin de la fidélité ou de l'adultère, etc. Ce n'est pas que dans ce domaine-là qu'il faut prendre conscience de ceci. Souvent, notre approche, nos questions, nos interrogations, nos objections sont à un certain niveau. Et la réponse qui va être la plus utile, la plus salutaire, c'est celle de notre Seigneur qui va répondre à un autre niveau. Alors, non pas qu'il ne considère pas nos vécus terrestres, il a même écrit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, mais il répond, et ici en l'occurrence, le Créateur. N'avez-vous pas lu? J'aime beaucoup cette expression dans les évangiles. À remarquer que quand Jésus précise, il dit, le Créateur dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, dans le texte de Genèse, Genèse 2, c'est pas explicitement Dieu qui le dit. C'est comme une remarque de Moïse dans le texte ou comme une précision. Et pourtant, donc ça veut dire, si vous prenez Genèse 2, vous pouvez discuter et dire, ah, c'est pas Dieu qui a dit. L'homme quittera, s'attachera, deviendra. Mais en attendant, Jésus, lui, il affirme, c'est le Créateur qui l'a dit. Et pourquoi? Parce que c'est écrit. C'est impressionnant. Donc, je ne résiste pas au plaisir de relever ça en passant, que pour Jésus, ce qui est écrit est parole de Dieu. N'avez-vous pas lu? Voilà. Et bien évidemment, qu'en disant « n'avez-vous pas lu ce que le Créateur fit et dit », Jésus réfère les personnes qui lui posent cette question à vous avez été créé à l'image de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dira que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, parce que le vrai sens de cette union, c'est image de Dieu et écho à terme de l'union entre Christ et son épouse. Pourquoi, donc retenons juste ça, celui que nous verrons tel qu'il est nous dit, attention, il y a ce que l'homme pense et ce que l'homme fait, mais il y a ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Pourquoi donc maintenant des versets 7, juste 7 à 9, pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il commandé de donner un acte de divorce et de répudier? Et il leur dit, donc c'est la même chose en fait, il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Donc ici, il faut entendre que Jésus met en opposition votre dureté et puis au commencement. Et donc je me répète, c'est pas que dans le domaine du mariage qu'il y a opposition entre la dureté du cœur humain et il faut l'admettre parfois avec larmes, la dureté du cœur chrétien, opposition entre cette dureté-là et puis ce qui est au commencement, c'est-à-dire ce que Dieu a fait et veut. Il faut entendre cette opposition entre dureté et, je dirais, pureté originelle. Et donc Jésus leur dit, voilà, quiconque, donc en gros, il leur dit, ne répudiez pas votre femme. Dans l'évangile de Marc, il est précis. Jésus dit la réciproque, ce qui devait sonner étrange aux oreilles de l'époque. Il dit, et toute femme qui répudie son mari et en épouse un autre homme commet adultère. Il donne dans les deux sens. Donc Jésus dit, ne répudiez pas, ne divorcez pas. Et puis il dit, il donne une exception. On sait que dans 1 Corinthiens 7, Paul en élargira pour en donner une autre, qui en fait est incluse, hein, plus ou moins, enfin qui est liée. Et il dit, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité. Le mot est très très fort, hein, pour Améa. C'est toute forme et toute forme de péché sexuel. Et étonnamment, hein? Oui, fornication, etc. Le mot inclut en partie l'idée d'appartenance. Autrement dit, je le dis en passant, hein, celui qui aura trouvé son mari ou sa femme coupable de faute, par faiblesse, par chute, une fois, et qui se rue sur cette occasion pour divorcer, il commet une faute énorme, parce que le péché ponctuel ne se traite pas par le divorce, il se traite par le repentir et le pardon et la réconciliation. C'est-à-dire, quand Jésus dit sauf pour infidélité, il s'agit d'une orientation où le conjoint comme vraiment veut appartenir ailleurs. Voilà. Et donc, entendons simplement de nouveau que Jésus dit à la fois de ne pas divorcer et à la fois dit qu'il y a des exceptions. Il ne m'appartient pas de les définir absolument. Relevons quand même que Jésus distingue entre divorcer et se remarier. Il ne dit pas celui qui répudie comme un adultère. Il dit celui qui répudie et qui en épouse une autre ou un autre. Comme un adultère. Voilà pour ce paragraphe. La suite nous pose question, versets 10 à 12. Ses disciples lui dirent, aïe, 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 ses disciples lui dirent, si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Et il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques, et là il prend un terme extrêmement fort, parce que c'est une réalité brutale, le fait d'être eunuque, car il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par la main des hommes. Et il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre comprenne. Donc, eunuque au sens propre, ça veut dire qu'il y a un handicap physique qui fait qu'un homme masculin ne peut pas avoir de relation sexuelle. Donc, quelquefois, ils sont nés avec ce handicap. D'autres sont devenus eunuques, c'est-à-dire, voilà, ils sont esclaves et ceux qui les ont asservis les ont amputés. Et puis, Jésus dit, il y en a qui se sont rendus eunuques, sous-entendu eux-mêmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils se sont amputés, mais il dit, à cause du royaume des cieux. Et toute forme de. Jésus inclut là tout renoncement à une vie sexuelle à cause du royaume des cieux. Et évidemment, il le dit deux fois d'ailleurs dans ce tout petit paragraphe que ce n'est pas donné à tous, ni demandé à tous, que celui qui peut comprendre comprenne. Et qui va comprendre? Celui qui commence à voir le Seigneur tel qu'il est. Celui qui entend l'opposition entre la dureté du cœur humain et ce que Dieu fait et veut. Celui qui entend l'opposition entre ce que l'homme veut et ce que Dieu dit. Et il faut relever avec une certaine tristesse que la question des disciples, finalement, elle est à peu près au même niveau que la remarque des pharisiens, que la question des pharisiens. Leur question tourne autour de ce qui va leur être avantageux ou pas avantageux. Alors, je sais bien que dans notre siècle où mes droits sont censés être prioritaires surtout, c'est quasiment inentendable, mais quand les disciples lui font la remarque de ce qui va leur être avantageux ou pas, de nouveau Jésus répond à un autre niveau. Il répond à un autre niveau et il leur parle de nuque. Paragraphe suivant, relevons simplement que Jésus, s'il leur répond à un autre niveau, c'est pour parce qu'il leur parle, parce qu'il réfère les choses au royaume des cieux. Voilà. On peut discuter des heures et écrire des dizaines de livres, en l'occurrence, sur ces paragraphes-là, et être assez loin du cœur des choses, parce qu'on ne les aborde pas sous l'angle du royaume des cieux. Paragraphe suivant, qui semble étranger, différent, mais finalement pas tant que ça, versets 13 à 15 inclus, « Alors des gens lui amenèrent des petits-enfants, afin qu'il leur impose les mains et prie. Mais les disciples leur firent des reproches. Et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour leur pareil. » Il leur imposa les mains et partit de là. Alors, c'est un thème connu hein, dans les évangiles, des paroles de Jésus très connues, très aimées. De nouveau, pourquoi il y a ces reproches? Mais parce que c'est pas de nouveau d'ailleurs. Pourquoi ils font des reproches aux gens qui amènent des enfants pour que Jésus, en demandant qu'il leur impose les mains et qu'il prie? Ils font des reproches parce qu'ils ont une certaine idée de ce qui est important. Et on sait que Jésus, à plusieurs endroits dans les évangiles, ici il dit le royaume des cieux est pour leur pareil. La réponse est impressionnante. De nouveau, elle est à un autre niveau que les reproches. Les reproches, c'est bon, c'est important ce que fait le maître, ne le dérangez pas, en gros. Et Jésus dit, le royaume des cieux est pour leur pareil, et nous le savons, il est écrit ailleurs, et Jésus dit, si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas. Autrement dit, tout enthousiaste que vous soyez pour ce qui vous paraît important, vous êtes en train de passer à côté de quelque chose de plus important et vous n'entrerez pas. Je ne résiste pas au plaisir de relever en passant la différence entre ce que D'abord, je ne résiste pas au plaisir de relever que ce sont des enfants qu'on amène et ils sont le fruit de mariage. Et combien d'entre ces enfants ont été amenés par papa et maman? Combien par papa seul? Combien par maman uniquement? Peu importe, mais ils sont fruits de mariage, avec un S. Et donc maintenant, oui, je ne résiste pas au plaisir de relever la différence entre ce que ces parents-là, donc, demandent à Jésus et ce qu'il fait. Il demande qu'il impose les mains et qu'il prie pour eux. Et le texte dit simplement, il leur imposa les mains. Alors, je ne veux pas en extrapoler et en tirer toutes sortes de conclusions. Je veux simplement relever que nous demandons des choses au Seigneur et il fait ce qu'il fait. Paragraphe suivant, très connu, que évidemment, nous n'allons pas épuiser, nous n'avons pas non plus épuisé ce qui précédait. Versets 16 à 22. Alors, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon si tu veux entrer dans la vie. Observe les commandements. Lesquels ? Lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne diras pas de faux témoignages. Tu ne commettras pas de vol. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, j'ai gardé tout cela. J'ai gardé tout cela. Que me manque-t-il encore? Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Pardon. Il faut admirer la conscience de ce jeune homme. Il y a en lui une conscience claire. Déjà, il vient vers Jésus. Il l'appelle maître. Et s'il parle, s'il est conscient de devoir encore faire quelque chose de bon, c'est pour avoir la vie éternelle. Donc, il est bien tourné, ce garçon. Il est bien orienté. Vous voyez, il ne dit pas « En quoi dois-je mieux obéir à Dieu pour que mes richesses augmentent ?» C'est par rapport à la vie éternelle. Et Jésus, dans sa réponse, va le référer à Dieu. Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Alors, cette réponse peut nous étonner. Mais Jésus l'a fait. Et bien sûr, ce n'est pas la seule chose qui est écrite dans le Nouveau Testament au sujet des commandements. Mais Jésus fait cette réponse et le jeune homme demande lesquels. Et donc, Jésus lui dit, et ce qui est très important, me semble-t-il, à entendre, c'est que quand le jeune homme répond « J'ai gardé tout cela », il ne ment pas. Il n'est pas en train de se moquer de Jésus. C'est pour ça que c'est important de souligner comment son cœur était tourné. Il était bien tourné. Il n'est pas en train de mentir. Il avait fait ça. Or pour pour l'obéissance à certains de ses commandements, on dirait, bon, ça va de soi, mais je n'ai pas menti. J'ai honoré mes parents, j'ai aimé mon prochain. Mon prochain, dans le contexte, ça veut dire mon frère israélite. Dans le contexte du Lévitique, et jusqu'à ce jour-là, le jour où Jésus répond à ce jeune homme. C'est super beau. Et regardez comme c'est beau aussi. Il dit, que me manque-t-il encore? Donc, il faut admirer ce jeune homme parce qu'il est conscient que quelque chose manque. Il a beaucoup obéi à Dieu et il est conscient du fait que quelque chose manque. Et d'ailleurs, dès le début, il le dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Autrement dit, il est conscient qu'avec toute son obéissance, il sait pas s'il a la vie éternelle. Donc, il faut, si vous voulez, au lieu de prendre de haut ce jeune homme, comme souvent c'est fait dans les prédications, il faut l'admirer. Que me manque-t-il encore? Et là, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, parachevé, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Dans les cieux. Évidemment, c'est pour ça, je veux dire, c'est ce qui fait la validité de la réponse du Seigneur. Bon, pardon Seigneur d'employer des mots pareils, toutes tes paroles sont valides, mais on se comprend. Dans les cieux. Puis viens et suis-moi. C'est le but. Et donc, il s'en va tout triste parce qu'il a de grands biens. Et donc, ça montre, et donc je le relève tristement, ça montre que même le cœur bien tourné, bien conscient de ce qui manque encore, eh bien, on peut être en partie comme esclave de quelque chose de terrestre. Au point que, recevant une réponse de Jésus, eh bien, on se trouve tout triste. Au début, il n'était pas tout triste. Hein? L'un des évangiles précise qu'il arrive en courant, plein d'enthousiasme et en se disant, il va me dire une super réponse et ça va changer ma vie. Et il repart tout triste. Je ne peux pas m'extraire du nombre, enfin, je ne peux pas prétendre que je ne suis pas du nombre de ceux qui, tout en voulant la vie éternelle, ne sont pas prêts à perdre telle ou telle chose. Paragraphe suivant. Non, pardon, en fait, j'aurais dû lire plus loin, mais peu importe, on lit des versets 23 à 26. 6 inclus, Jésus dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, entendant cela, étaient très étonnés. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alors, pourquoi notre Seigneur dit qu'il est difficile? Ben bon, déjà, on l'a vu. Dans un autre évangile, difficile à un riche d'entrer. Dans un autre évangile, Jésus dit une deuxième fois, et si vous voulez, il double sa réponse en disant « difficile à ceux qui se confient dans leur richesse ». Mais il dit quand même que c'est difficile, et de peur qu'on ne s'imagine que c'est juste une façon de parler, Il dit, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Aïe, aïe, aïe. Alors, je sais bien qu'au long de 2000 ans de prédication, on a rapetissé le chameau et agrandi le trou d'aiguille de telle sorte que ça passe les doigts dans le nez. En attendant, c'est une expression outrée, volontairement outrée, un peu comme quand Jésus dit, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Donc, on peut prêcher ce qu'on veut. En gros, ça veut dire c'est impossible. Alors pourquoi les disciples sont étonnés? Mais parce que globalement, d'après la loi de Moïse, c'est plutôt en obéissant à Dieu qu'on acquiert des richesses, y compris matérielles. Et donc, en gros, si quelqu'un est fidèle à Dieu dans l'Israël de ce temps-là, c'est plutôt signe qu'il a globalement obéi à Dieu. Alors, on sait que ce n'est pas automatique du tout, hein? Mais c'est juste pour expliquer l'étonnement des disciples et même leur disent, mais alors, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Et dans leur tête, ça veut dire, si ceux qui obéissent le mieux à Dieu peuvent pas rentrer, qui peut être sauvé? Nous les comprenons. Et Jésus dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. L'impossible salut n'est possible que par Dieu et grâce à Dieu. Alors Pierre prit la parole et dit, voici que nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous? Jésus le répondit, donc verset 27 jusqu'à la fin du chapitre, Jésus lui répondit, en vérité je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, frère, sœur, père, mère, femme, enfant ou terre, recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. La première fois que j'ai lu ça, j'étais jeune, très jeune. J'ai eu la vague impression que Pierre, il se vantait. Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi implicitement et vu le contexte, nous sommes pas comme lui. Le jeune garçon, tu lui as dit de vendre et de te suivre, et il repart tout triste. Nous avons quitté et nous t'avons suivi. Et bon, plus loin, plus tard dans ma vie, j'ai compris que quand je lis, il n'y a pas lieu d'imaginer, mais que je dois interpréter d'après ce qui est écrit, bon, avant, mais aussi après. Et la réponse de Jésus, semble exclure que Pierre soit en train de se vanter, puisqu'il lui dit, c'est une réponse qui honore le fait qu'ils ont tout quitté et qu'ils l'ont suivi, puisqu'il dit, en vérité, je vous le dis, hein, vous serez assis sur 12 trônes. Donc Pierre n'est pas en train de se vanter, peut-être dans son cœur, en train de dire, mais Dieu nous a fait une grande grâce de pouvoir te suivre. Alors les évangiles ne cachent pas les défauts des 12. Et des paroles qui disent qu'ils vont pas, mais dans ce cas, le texte montre que ça va pas. Et regardez ce que Jésus dit. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, voilà, maison, etc., etc., recevra la vie éternelle. Et de nouveau, il y a opposition entre ce qui est passager et la vie éternelle. Maintenant, chapitre 20, Je dois rassurer ceux qui sont conscients du chronos, du temps qui passe, que j'en suis conscient aussi, et donc il y a des choses où on passera plus vite. On va lire donc versets 1 à 7. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. On n'est pas en train de le texte n'est pas en train de changer de thème, hein? Il s'agit des gens qui suivent, d'accord? Des gens qui vont suivre le Messie ou pas. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, donc 9 heures du matin, hein, en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez vous aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième midi, puis vers la neuvième, 15 heures, et il fit de même. Il leur dit les mêmes choses. Vers la onzième heure, donc 5 heures de l'après-midi, presque 6 heures, donc presque la fin de la journée, vers la onzième heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a embauchés. Allez, vous aussi, dans ma vigne, leur dit-il. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Parce que cet épisode, on imagine la scène avec la place du village, etc. Hein? Cet épisode, Jésus dit qu'il illustre ce qu'est le royaume des cieux, non pas ce qu'est le paradis, mais comment sur terre le royaume des cieux se manifeste. Qu'est-ce qu'il produit? Et là, clairement, eh ben, il embauche. Ou plutôt, le roi embauche. Il demande qu'on le suive et qu'on travaille pour lui. Ce qui donne tout le sens à l'avant-dernière phrase. Pourquoi vous tenez-vous sans rien faire? Ce qui donne tout son sens à même à la 11e heure, même une heure avant la fin, venez, je vous embauche, je vous prends. C'est extrêmement beau. Voilà. Maintenant, de 8 à 15. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Donc, paye d'abord ceux qui sont arrivés à 5 heures. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Donc, implicitement, puis les autres, puis les autres, puis les autres, et on arrive aux premiers. Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage. Mais ils reçurent eux aussi, chacun, un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi et pars. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça existe, ça? Eh bien, en tout cas, pardon, je finis la lecture. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. C'est par les mêmes mots que Jésus a conclu sa réponse à Pierre précédemment. Est-ce que ça arrive qu'on puisse voir de mauvais œil que Dieu soit bon, que le Seigneur soit bon? En tout cas, d'après cet épisode, ça arrive quand on est jaloux, quand on se compare aux autres, qu'on trouve qu'ils n'ont pas beaucoup fait pour Dieu, mais que moi j'ai beaucoup fait, même j'ai souffert pour lui. Voilà, quand on se compare aux autres et qu'on est jaloux de ce que Dieu les bénisse autant que nous, ou à l'inverse, on est frustré de ce qu'ils ne nous bénissent pas 11 fois plus que eux. Alors oui, si c'est le cas, eh bien honnêtement, le Saint-Esprit va m'éclairer et me dire, tu es en train de voir de mauvais œil que Dieu soit bon. Aïe, aïe, aïe. Voilà, ce paragraphe, je le finis avec aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, sur le point de monter à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 et leur dit, donc là, on va lire les 3 versets, hein, et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » D'autres évangiles précisent qu'ils ne comprirent pas ce qu'il leur dit et qu'ils étaient dans l'angoisse, etc. Ici, il y a pas un mot là-dessus. Simplement, Jésus leur dit, il faut relever évidemment qu'il ne subit pas son sacrifice. Hein. Jésus dit, personne ne me l'ôte ma vie. C'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et puis, relevons aussi qu'il leur dit que finalement, ça se fera par la main des hommes et des Israélites et des païens, des mains convergentes. Il dit, voilà, les principaux sacrificateurs le condamneront et les païens le crucifieront. Alors, de nouveau, est-ce que le texte est en train de changer de thème? Non. Parce qu'un maître pareil, qui donne sa vie et qui ressuscite, ben oui, il a le droit de donner à celui-ci autant qu'à tel autre et de faire de ses biens ce qu'il veut. Amen. Si vous voulez, c'est quand j'oublie que le Seigneur sait aussi le crucifier que je peux jalouser mon frère, ma sœur. Mais tant qu'il est le crucifié ressuscité, comme dit Paul, je me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Tant qu'il reste le crucifié, comme dans l'Apocalypse, je vis un agneau égorgé. Alors, il n'est plus crucifié maintenant, mais il demeure celui qui a été crucifié, et ça se voit sur ses mains, même après sa résurrection, et ses pieds. Tant qu'il demeure le crucifié, je suis globalement à l'abri de jalousie et d'amertume contre mes frères et sœurs, contre les co-embauchés. Tout à l'heure, quelqu'un a dit il n'y a pas de plus grand, de plus petit dans le corps. Nous avons tous été embauchés également par notre Seigneur. Alors, versets 20 à 28. Alors, la mère des fils de Zébédée, donc ça veut dire de Jacques et de Jean, étrange formulation, s'approcha de... Enfin non, ça a un sens, mais on passe. La mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Elle lui dit, pardon, il lui dit, que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Il vient de leur dire qu'il va être crucifié. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Nous le pouvons, disent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Hein? Jacques a été mis à mort assez rapidement après la Pentecôte. Jean, il est mort beaucoup plus tard. Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela n'est pas à moi de le donner. Sinon, à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 qui avaient entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations... » Si vous voulez, on le lira après ça. Quelques mots sur jusqu'au verset 23 inclus. Ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui il s'est préparé pour mon Père. Déjà, relevons que Jésus ne répond pas uniquement à la maman. Il dit « Pouvez-vous ?» Et donc, ça, il répond aux deux fils, soit aux deux fils, soit aux deux fils aussi. Et manifestement, il y a quelque chose qui n'a pas été compris là par maman et les deux, par les deux et maman, je ne sais pas dans quel ordre. Peut-être que comme Jésus a parlé précédemment, vous serez assis sur 12 trônes. Ils ont perdu tout sens commun et leurs chaussures, leurs sandales ont été déchirées par leurs chevilles. Je ne sais pas. En tout cas, il y a une espèce de surambition spirituelle, de surattente. Bon, il demande ça. On veut être à la droite et à la gauche du, hein, voilà, du Fils de Dieu dans le royaume. Alors, on pourrait dire, mais formidable, il ne s'occupe pas des choses de la terre. Enfin, quelqu'un qui pense aussi aux choses d'en haut. Oui, mais on ne dira pas que leur cœur est très bien tourné là. Voilà. Et Jésus dit, bon, vous ne savez pas ce que vous demandez. Et puis, regardez, toute la réponse, elle est dans la réponse. Moi qui suis le Messie, votre Maître, le Seigneur, le Fils éternel, eh bien, moi-même, ce n'est pas moi qui décide à qui cela sera donné. Donc, implicitement, c'est encore moins vous qui allez déterminer qui il sera. Et puis ensuite, donc, les 10, ils sont indignés. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous. » Il faut joindre cette phrase de Jésus à « Aime ton prochain comme toi-même » qui signifie « Aime ton frère comme toi-même » ou la phrase de Jésus « Aimez-vous comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Et donc, ça inclut, pour ce qui est de la place de l'importance des premiers rangs, etc. Là, je ne parle pas des premiers rangs sur les bancs ou les chaises, hein, mais voilà, des premiers rangs dans l'Église du Seigneur Jésus. Cette phrase signe, quand Jésus dit, il n'en sera pas de même parmi vous. C'est-à-dire, peut-être Dieu m'a confié une responsabilité, peut-être qu'il m'a mis avec d'autres, parce que c'est toujours un collectif dans le Nouveau Testament, à la tête d'un groupe, d'une église locale ou plus. Mais il n'en sera pas de même parmi vous. Voilà. Si Dieu vous a fait grand, d'une certaine manière, eh bien, vous ne dominerez pas sur vos frères, sur vos sœurs. Voilà, c'est très, très important. Voilà. Et Jésus argumente cela tout simplement par son propre exemple. Je continue de lire. Il n'en sera pas de même parmi vous, verset 26, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et donc, de nouveau, la réponse, c'est « Si moi, votre Seigneur et votre Maître, je ne me fais pas servir, mais je sers et je donne ma vie, eh bien, à combien plus, quelle que soit l'importance de votre rôle dans mon Église, eh bien, sera grand celui qui sert, sans dominer. Et Pierre insistera beaucoup là-dessus, sans dominer sur le troupeau. Et donc, pour finir, verset 29 à la fin du chapitre, donc l'épisode est connu. Oula, je vois que j'ai débordé midi. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Or, deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule leur faisait des reproches pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je vous fasse? Ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Saisi de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Alors, il y a bien évidemment un contraste dans le texte entre la demande de la maman de Jacques et Jean. Voilà ce que je voudrais que tu fasses pour mes fils. Où Jésus répond, ben non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et puis, le fait que Jésus demande à ces deux aveugles, que voulez-vous que je vous fasse? Et il y a évidemment un gouffre entre la volonté, la surambition de Jacques et Jean, et puis la volonté tout à fait normale, tout à fait légitime de ces deux hommes-là. Oudin, pardon? Deux, oui, ici c'est deux. Voilà, que voulez-vous que je vous fasse? Et évidemment que quand par sa parole, Dieu met l'accent sur notre volonté, c'est pas n'importe laquelle. Quelquefois, il parle de notre volonté pour justement la contrer et la réduire. Mais quelquefois, au contraire, pour l'entendre et pour en faire cas. Que voulez-vous que je vous fasse ? C'est magnifique. Et lui dire, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent, saisis de compassion. Voyez, la première volonté a eu pour réponse non. Et ici, la volonté a eu pour réponse la compassion. La compassion, c'est une réponse de Jésus. Alors, il est en amont, il est déjà compatissant, mais dans l'histoire, dans le vécu du moment, le texte dit « saisi de compassion ». Donc, c'est une réponse. À noter, hein, on relève que quand il crie « fils de David », eh bien, ils en disent beaucoup. Ils en disent beaucoup, très, très probablement, confessant la messianité du Seigneur. Et donc, pour conclure, ces deux chapitres, comment a commencé le 19 ? Presque en passant, c'est mentionné, les foules vinrent et il les guérit. Et comment ça finit ? Là, par cette guérison de deux hommes, les yeux s'ouvrent. Et pointe de tout l'ensemble, ils le suivirent. C'est ce que parfois les hommes ne veulent pas faire, ou les femmes, dans le domaine du mariage, ou dans le domaine, voir ce qui est important ou pas important. Les enfants, c'est pas important, ce qu'on fait nous, c'est important. Ou bien, c'est ce que le jeune homme riche n'a pas pu faire à ce stade-là. Vous voyez, c'est ce que les premiers embauchés ont eu du mal à faire. C'est ce que bon, Jacques et Jean n'ont pas vraiment fait sur le point en question, mais toute notre lecture finit par « et ils le suivirent ». Amen.
Amen. Merci Jean. C'est tellement riche, tellement riche, tellement compliqué et frustrant de passer au-dessus de tant d'écritures et de sentir qu'il y avait encore plus à creuser, encore plus à ressortir de ça. C'était un message riche, il y a beaucoup de choses dedans. Je vous encourage, il va être disponible en ligne, je vous encourage à vous replonger dedans pour ressaisir toute la largeur de ce qui est partagé par Jean ce matin. Et en tout cas, cette invitation à chacun de nous de le suivre, quelle que soit l'heure, qu'on soit au début ou qu'on soit à la fin, peu importe, il nous appelle et le salaire est le même. C'est celui du salut, celui de la connaissance du Fils et au travers du Fils, la connaissance du Père. Alors oui, suivons, acceptons et suivons. Et c'est une invitation forte, j'aimerais juste prier pour nous laisser. Seigneur, on ne veut pas ce matin un message de plus qui passe sur nos cœurs, Seigneur, qui arrose, qui fait du bien, qui nous rappelle des vérités et qui s'efface, Seigneur, qui s'oublie. On veut saisir cette invitation, Seigneur, ce matin à tout laisser et à te suivre, Seigneur. On veut saisir cette invitation à déclarer que dans nos vies, tu as l'autorité, Seigneur, que ta parole, elle est l'autorité, que tu es celui que nous suivons, tu es celui pour lequel nous donnons nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas juste reconnaître Jésus-Christ, que tu es celui qui nous sauve, mais nous voulons reconnaître ce matin que tu es celui qui est le Seigneur de nos vies en toutes choses, Seigneur, et le Seigneur de toute la création. Et comme on a démarré ce culte, Seigneur, on veut se souvenir, nous arrêter et reconnaître que tu es Dieu dans nos vies. Et à cause de ça, même si nous ne comprenons pas, même si nous apparaissons ne pas être d'accord juste parce qu'on ne comprend pas bien, Seigneur, et qu'on n'a pas les bonnes lunettes, on veut dire que oui, nous choisissons de te suivre et de tout donner pour toi, Seigneur. Amen.